Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 30 janvier, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous à la fois hebdomadaire et matinal qui depuis presque 20 ans maintenant vous propose de revenir sur 7 jours d'événements sur la planète avec bien sûr les reportages de la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez cette émission sur le site de RFI en la podcastant. L'Érythrée va être au cœur de ce panorama grâce à notre invité, journaliste, confrère de la rédaction Afrique de la radio, Léonard Vincent, auteur d'un livre remarqué sur ce pays et sur ses habitants qui paraît ces jours-ci en livre de poche. Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Pierre-Edouard.
Merci d'être à ce micro. J'ai dit que c'était un livre remarqué. Alors il faut préciser, Léonard, que c'est une démarche singulière que la vôtre. C'est plus qu'un livre de journaliste, ce qui serait déjà beaucoup. Je vous sais amoureux de littérature, d'écriture. C'est vraiment l'histoire, ce livre, l'histoire d'un engagement aussi personnel.
Oui, c'était difficile de faire un livre de journaliste. Ils sont toujours très intéressants, ces livres où on rencontre des gens et puis on entend simplement des voix étrangère, mais là en l'occurrence il ne s'agissait pas que de ça. Dans ma vie, j'ai d'abord travaillé pour une grande ONG, Reporters sans frontières, qui m'a permis de rencontrer des Érythréens, des familles de prisonniers. Et j'étais bouleversé au-delà de l'intérêt journalistique. Il fallait raconter ce bouleversement et le voyage que j'ai entrepris à travers ce peuple et à travers ce pays que je ne connais pas, où je n'ai jamais mis les pieds. Il a fallu
Est difficile d'y aller.
Et puis il a fallu reconstruire quelque chose qui était totalement atomisé. L'entreprise était difficile pour un journaliste puisque en réalité on peut pas vérifier ce qui se passe. On a juste des voix qui nous parlent. C'est ces gens qui fuient, qui sont aux quatre coins du monde, quatre coins de l'Afrique, en Europe, dans nos bidonvilles, et il faut essayer de reconstruire quelque chose qui est au-delà de la méthode journalistique qu'elle ne peut pas appréhender en réalité. C'est vraiment le rapport humain d'un individu, moi, journaliste, en Europe aujourd'hui, découvrant des étrangers absolus que je ne connais pas, dont je ne savais rien avant d'entreprendre ce voyage, et que c'est une sorte de découverte, un peu comme les explorateurs de la Renaissance partaient voir les terra incognita et racontaient des îles fabuleuses. C'était un peu ça le projet. Il se trouve que ça a été au-delà de ça, ça a été une rencontre qui fait que je suis jamais vraiment revenu de ce voyage.
Vous y êtes toujours, effectivement. Alors, avant de reparler de l'Érythrée, Léonard, partons à La Haye, au siège de la Cour pénale internationale, où jeudi, vous le savez, a commencé le procès de Laurent Gbagbo. Que lui reproche-t-on exactement ? Réponse de notre envoyé spécial, Florence Boris.
Il y a d'abord la répression d'une manifestation en décembre contre des partisans d'Alassane Ouattara qui tentaient de rejoindre la RTI, la radio-télévision publique, pour installer un nouveau directeur à sa tête. Entre le 16 et le 19 décembre, selon l'accusation, 45 personnes sont tuées, 16 femmes violées par les forces de sécurité avec l'appui de mercenaires. Puis il y a cette attaque le 3 mars 2011 contre une manifestation dans le quartier d'Abobo. Plusieurs centaines de femmes sont rassemblées au son de Gbagbo dégage lorsque, toujours selon l'accusation, les forces de sécurité tirent sur la foule, bilan 6 morts et 3 blessés. Deux semaines plus tard, Abobo est de nouveau visé. Cette fois, des obus de mortier seraient tombés sur un marché. Le secteur est densément peuplé, 60 personnes perdent la vie. Il y a enfin cette tuerie à Yopougon autour du 12 avril, 75 victimes selon l'accusation, soupçonnées, parfois sur de simples critères d'appartenance ethnique, de soutenir le camp d'Alassane Ouattara. À maintes reprises, la défense de Laurent Gbagbo a protesté contre le choix de ces quatre événements, dénonçant une sélection biaisée qui entérine, selon elle, une vision ouattariste de la crise.
7 jours dans le monde.
Les Érythréens, Léonard Vincent, sont bien sûr parmi les réfugiés qui tentent de gagner l'Europe, mais ils ne sont plus les bienvenus, singulièrement au Danemark. Danemark où les immigrants sont priés désormais de payer s'ils veulent venir dans ce pays. Reportage de notre envoyé spécial, Anastasia Becchio.
Artistes et demandeurs d'asile défilent sur une petite scène devant quelques centaines de personnes. Sur une banderole, au-dessus de la tribune, une inscription « Les réfugiés sont aussi des êtres humains ». Il y a moins d'une heure, à quelques centaines de mètres de là, les députés ont adopté la nouvelle loi sur l'immigration. Eric, la soixantaine, semble abattu.
Les immigrés et les réfugiés sont vraiment maltraités par le gouvernement. D'abord, on les empêche de venir et puis on les met dans des camps où les conditions de vie sont très mauvaises. C'est vraiment un gouvernement de néo-nazis.
Dans les cafés qui bordent la place, les clients ne semblent pas partager les inquiétudes des manifestants. Mikael Andersen, favorable à une politique de l'immigration plus stricte, tient un blog sur le site du quotidien de centre droit Berlingske.
Je pense que la majorité des Danois soutient cette loi. Le coût d'accueil des demandeurs d'asile est très élevé au Danemark et nous pouvons voir que ce coût de l'immigration va augmenter encore dans l'avenir si rien n'est fait.
Depuis le rétablissement des contrôles à la frontière au Danemark mais aussi en Suède voisine, le flux de migrants s'est considérablement réduit. Copenhague n'enregistre plus en moyenne que quelques dizaines d'arrivées par jour.
Donc au Danemark, Léonard, la police pourra fouiller les bagages afin de saisir l'argent liquide des réfugiés, s'ils en ont évidemment, au-delà de 1 340 € à peu près. Et les objets valant plus que cette somme et sont exemptés quand même les objets à forte valeur sentimentale comme les alliances par exemple. Et il faut aussi préciser, Anastasia il faisait référence il y a un instant, que la Suède se prépare à expulser entre 60 000 et 80 000 migrants arrivés l'année dernière, donc sale temps pour les réfugiés, et notamment pour les Érythréens.
Oui, les Érythréens ne sont pas concernés par les expulsions, je pense, même si le Danemark n'est pas à son premier coup d'éclat vis-à-vis des réfugiés, et particulièrement vis-à-vis des Érythréens. L'année dernière, un rapport commandé par la direction de l'immigration danoise, fondé sur une mission d'exploration, avait été envoyé en Érythrée. Ils avaient rencontré l'essentiel de ce que la dictature compte de caciques, avaient rédigé un rapport absolument délirant sur la situation réelle de l'intérieur de l'Érythrée, disant que la situation s'améliorait. Ça pouvait motiver donc un renvoi systématique des demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile au Danemark. Ça a fait un tel scandale que les responsables du rapport ont démissionné, qu'un certain nombre d'intellectuels érythréens qui sont cités dans le rapport se sont désolidarisés. On dit que tout ça avait été truqué et que même le HCR s'était étonné des méthodes. Donc voilà, on est face à un pays qui a basculé, dont la majorité a basculé, et qui aujourd'hui applique de manière donc indécente une politique complètement irréaliste.
Alors dans votre livre, qui est un livre très humain, où on suit quelques-uns de ces réfugiés, vous les avez rencontrés, vous avez vécu avec eux, et ce livre est aussi un livre d'histoire, un livre sur l'évolution du pays depuis l'indépendance, depuis la guerre d'indépendance. Vous nous rappelez qu'il y a à peu près 5 millions d'habitants, c'est difficile sans doute d'avoir un chiffre exact.
Oui, le dernier recensement date de 1991, donc on est entre 5 et 6 millions, sachant que d'après l'ambassadeur érythréen à l'ONU, il n'y aurait que 3,5 millions d'Érythréens à l'intérieur des frontières.
Ça veut dire qu'il y aurait combien de réfugiés désormais à l'extérieur?
On les estime entre 1 et 2 millions.
On dit que l'Érythrée est le 10e pays pourvoyeur de réfugiés dans le monde.
Oui, ça c'est les chiffres officiels du HCR. C'est la troisième source de réfugiés en Europe. Un Érythréen sur 4 à peu près vit à l'étranger.
Alors il est temps de rappeler, Léonard, que ces réfugiés fuient quasiment le seul pays totalitaire avec la Corée du Nord aujourd'hui.
Oui, en tout cas, un qui incarne le totalitarisme dans tout ce qu'il a de plus incroyable, c'est-à-dire la volonté d'un gouvernement, d'une petite clique d'hommes convaincus d'être sur la bonne voie, de contrôler l'intégralité des aspects de la vie des citoyens érythréens. Alors c'est un petit pays avec un petit peuple peu nombreux, de la ville d'Asmara, c'est grand comme une ville moyenne française, et c'est la capitale pourtant, donc c'est facile de contrôler tout ça, d'autant qu'il y a un appareil militaire omniprésent qui contrôle tous les aspects, y compris scolaires, de la vie des Érythréens, et puis le poids de la culpabilité de 30 ans de guerre civile, de guerre d'indépendance, qui a été menée contre l'Éthiopie entre 1961 et 1991, pour lequel toutes les familles érythréennes ont donné un frère, un oncle, une tante, une sœur, etc. Donc il y a le poids du rapport aux martyrs qui est immense. Et ce n'est pas exclusif à l'Érythrée, je sais qu'en Afrique on connaît bien cette histoire. Là, c'est vraiment le culte de la nation. On prie autour de l'autel du martyr.
Et le culte Léonard du dictateur, en fait, hein, le fameux Isaias Afwerki.
Alors, c'est assez curieux. C'est un mélange de, effectivement, d'adoration pour un homme qui a porté depuis sa prime jeunesse la lutte pour l'indépendance, qui a rejoint le maquis après avoir quitté son dortoir d'université, qui a monté une rébellion avec une idéologie très particulière, qui, dans les territoires libérés, a créé une Érythrée parallèle pendant l'occupation éthiopienne pour montrer ce que serait l'Érythrée de demain avec égalité des sexes, on abattait les vieilles traditions archaïques et violentes pour créer la société nouvelle. Alors cet homme est évidemment adulé par une partie de la population et puis en même temps, si vous allez à Asmara ou ailleurs, il n'y a pas de photo de lui délirante. C'est pas un régime extravagant comme la Corée du Nord avec des grandes casquettes et tout ça. C'est un régime plutôt austère, plutôt froid, de vétérans narcissiques mais qui, disons, ne font pas étalage l'âge de leur richesse. Isaias, c'est un homme que vous pouvez rencontrer dans la rue, entouré de ses gardes du corps, mais qui marche en sandales, qui reçoit en chemisette, qui est fier de n'être pas comme tout le monde, de n'être pas un potentat couvert de diamants.
Une semaine d'actualité.
Et partons maintenant pour Haïti, en proie, vous le savez, à une crise politique depuis l'annulation du second tour de l'élection présidentielle. Reportage mercredi à Port-au-Prince de Stéphanie Schuller.
Route bloquée, voiture incendiée, vitrine brisée, des pneus qui brûlent. Le Réseau national de défense des droits humains se dit très préoccupé par le niveau de tension et de violence qui règne dans le pays, non seulement à Port-au-Prince, mais à travers l'ensemble des 10 provinces haïtiennes. Marie-Yolaine Gilles, responsable de programme au RNDDH.
Au niveau du pouvoir, PHTK, ils sont très violents et ils ont l'appui de la police nationale d'Haïti pour faire du désordre. Et au niveau de l'opposition, ils organisent des manifestations avec beaucoup de casse. Donc, c'est clair, le pays est débouché sur une grave crise électorale et on ne voit pas venir de très tôt les solutions.
Pourtant, le temps presse. Selon la Constitution, le président Michel Martelly doit quitter le pouvoir dans 9 jours seulement.
Nous vivons une situation d'exception. Donc, il faut trouver une réponse concertée. Nous aimerions demander aux différents acteurs qui ont des propositions de s'asseoir autour d'une table pour sauver Haïti. Sinon, ce sera le pire. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais on s'acheminera vers la guerre civile.
Les tractations entre les partis des 2 finalistes à la présidentielle, ainsi que le Parlement et l'exécutif, sont toujours en cours.
La situation à Port-au-Prince est évidemment à suivre dans nos journaux. Continuons notre voyage dans l'actualité internationale de ces derniers jours avec des propos fort remarqués de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU à l'encontre d'Israël, New York mardi, Marie Bourreau.
C'était un débat comme il y en a chaque mois à l'ONU sur la question israélo-palestinienne. Sauf que cette fois-ci, le secrétaire général Ban Ki-moon avait décidé de hausser le ton et de partager tout haut sa frustration.
Comme les peuples opprimés l'ont démontré tout au long des siècles, il est dans la nature humaine de réagir à l'occupation, qui sert souvent d'incubateur puissant pour la haine et l'extrémisme.
Il a aussi réclamé le gel de la colonisation alors que l'État hébreu vient d'annoncer la construction de 150 nouveaux logements dans les territoires occupés et l'annexion prochaine de 150 hectares de terres agricoles.
C'est un affront à la population palestinienne et à la communauté internationale. Et cela soulève des questions fondamentales sur l'engagement d'Israël pour une solution à 2 États.
Benjamin Netanyahou a tout de suite dénoncé des propos qui encouragent, selon lui, le terrorisme et l'ambassadeur israélien à l'ONU a condamné la politique du deux poids deux mesures des Nations Unies vis-à-vis d'Israël.
Le Conseil de sécurité a toujours été hypocrite dès qu'il s'agit d'Israël. Les faits ne mentent pas. 12 résolutions ont été votées pour condamner le terrorisme, mais aucune en ce qui concerne le terrorisme palestinien en Israël.
L'ONU essaye depuis plus d'un an de relancer une solution à 2 États, mais la paralysie est totale et les relations de plus en plus tendues avec l'État hébreu.
Avant de retrouver Léonard Vincent et reparler de l'Érythrée, un mot sur le voyage du président iranien en Italie et en France cette semaine. Il a beaucoup été question d'économie, mais ses voyages avaient une portée évidemment politique, soulignée à Téhéran, d'où nous a appelé Tiavosh Gazi jeudi.
La double visite du président Rouhani en Italie et en France est considérée à Téhéran comme un grand succès politique et diplomatique. En effet, l'accueil réservé au président iranien et à sa délégation, composée d'une demi-douzaine de ministres, mais aussi d'une centaine de chefs d'entreprise, permet de tourner définitivement la page des années sombres de la crise nucléaire et des sanctions internationales. Les nombreux accords signés en Italie et en France permettent de faire un grand pas pour renouer des relations économiques avec les pays européens. L'annonce de l'achat de 114 Airbus est très bien accueillie en Iran, où la flotte civile est très ancienne. Il en est de même avec les accords qui doivent être signés avec les constructeurs français Peugeot et Renault. Pour Téhéran, tous ces accords auront aussi un effet accélérateur dans la négociation entre Téhéran et les autres pays industrialisés, aussi bien en Europe qu'en Asie. L'Iran, qui a longtemps souffert des sanctions économiques internationales, espère profiter de ces nouvelles relations, non seulement pour avoir des investissements, mais aussi des transferts de technologies. Cette double visite est aussi l'occasion pour le président Rouhani de marquer le grand retour de l'Iran sur la scène internationale et régionale, où l'Iran est désormais incontournable, notamment en ce qui concerne la crise syrienne.
Sept jours dans le monde.
Et nous retrouvons notre confrère de RFI, de la rédaction Afrique de RFI, Léonard Vincent, auteur d'un livre passionnant que je vous recommande, qui s'intitule « Les Érythréens », qui vient de paraître en Rivage Poche. On a parlé d'Israël, il faut s'arrêter quand même au sort qui est réservé à certains Érythréens dans ce pays. Il y a eu, au début du mois de janvier, ou il y a quelques jours, l'inculpation de 4 Israéliens pour le lynchage d'un Érythréen.
Oui, c'est un épisode absolument épouvantable qui s'est déroulé il y a quelques mois. Il avait été confondu avec un tireur dans la gare de Beersheba, dans le sud d'Israël. On avait arbitrairement décidé que c'était sur lui qu'on allait s'acharner. Alors, un garçon a essayé de s'interposer, mais enfin, beaucoup d'autres se sont acharnés à coups de barre et de pistolet contre lui. C'était un garçon qui travaillait dans une ferme, un Érythréen qui était arrivé comme plus de 50 000 d'entre eux ces dernières années, parce qu'il faut savoir que Israël était, dans l'imaginaire des Érythréens qui sont coincés dans les camps de réfugiés en Afrique, la première démocratie accessible. Il fallait, pour atteindre les autres démocraties parlementaires, traverser la mer Méditerranée et donc passer par la Libye et se retrouver vraiment dans des situations extrêmement dangereuses. Or, une route s'était ouverte à travers l'Égypte, des passeurs acceptaient de les faire traverser le Sinaï, et cette route est, à force d'avoir été emprunté, devenu la route d'un business absolument épouvantable, alors qu'il...
Vous en parlez très bien dans le livre, et Jean-Paul Marie, récemment, nous en avait aussi parlé dans cette émission. C'est épouvantable, le sort qu'ils avaient aux réfugiés,
dans
les trafics.
Ils ne passent plus en Israël aujourd'hui. Alors, coincés en Israël, ils sont placés dans des camps de détention, ils sont privés de tous leurs droits, et aujourd'hui, Israël a passé une espèce d'accord secret avec un certain nombre de pays, comme le Rwanda ou l'Ouganda, pour pouvoir les renvoyer arbitrairement en Afrique, pour pouvoir se débarrasser de cette population dont elle ne sait que faire. Et ce qui est curieux, c'est quand vous parlez aux Érythréens en Israël, ce que j'ai fait, et ils vous disent, mais nous, si on veut pas de nous ici, prenez-nous ailleurs, acceptez-nous aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suède, peu importe. Ce sont des évadés, des fugitifs. Ils sont arrivés en Israël pas dans l'optique de s'installer là, mais simplement pour sauver leur peau.
Quel est le pays qui accueille le plus, a priori, d'Érythréens aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ça doit être à peu près à volume équivalent l'Éthiopie et le Soudan, les deux voisins où se trouvent les grands camps de réfugiés. Le Soudan est une terre d'émigration traditionnelle pour les Érythréens. C'était la base arrière de la rébellion indépendantiste. Les arabophones érythréens parlent l'arabe soudanais. Ils portent les mêmes djellabas et mangent les mêmes plats. Par ailleurs, du côté de l'Éthiopie, c'est à peu près la même chose. La frontière sépare les deux provinces du Tigré. On parle le Tigréen ou le Tigrinia des deux côtés de la frontière. Ce sont des cousins, donc ils se connaissent bien. Maintenant, avec l'Éthiopie, c'est autre chose. C'est une ligne de front. Une guerre terrible a été conduite entre 99 et 2000 sur cette ligne de front. Donc, traverser la frontière vers l'Éthiopie, c'est un petit peu trahir son pays. C'est assez difficile. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec environ, je crois, 150 à 180 000 Érythréens dans les camps de réfugiés en Éthiopie, ce qui est considérable et ce qui vous montre l'ampleur du désespoir.
Léonard Vincent, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde en Afrique et ailleurs, et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
La marche.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre résumé de 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invité, notre confrère Léonard Vincent, auteur d'un livre sur les Érythréens.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques minutes, direction l'Afrique, bien sûr. Nous reparlerons du procès de Laurent Gbagbo, notamment. Rendez-vous aussi avec quelques-uns de vos messages. Mais intéressons-nous un instant à l'actualité française avec d'abord une nouvelle augmentation du nombre de chômeurs en décembre dernier. Échec cinglant pour le président de la République. Depuis son élection en 2012, le nombre des demandeurs d'emploi s'est accru de 668 000 personnes. Agnès Kakumor.
Après une très légère embellie en novembre, le chômage repart à la hausse. Certes, légèrement, plus 0,4%, mais c'est une mauvaise nouvelle pour François Hollande qui a lié sa candidature à la présidentielle de 2017 à une inversion durable de la courbe du chômage. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, c'est la fameuse catégorie A, s'élève à 3 590 600, soit 15 800 chômeurs de plus qu'en novembre. Si on y ajoute les personnes ayant occupé une activité réduite, les catégories B et C, on décompte un total de 5 475 700. Ce sont les seniors qui portent le plus le poids du chômage, 8,4% d'augmentation sur un an. Les personnes de plus de 50 ans représentent près de la moitié des inscrits à Pôle emploi. L'exécutif table désormais sur la réforme du Code du travail et le plan Hollande pour améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser l'emploi. Des mesures d'urgence qui comprennent notamment la formation des demandeurs d'emploi et l'aide à l'embauche pour les PME.
La démission de Christiane Taubira maintenant, ça s'est passé mercredi. La ministre de la Justice était hostile à la déchéance de la nationalité. Elle est donc partie. Sur son bilan, écoutez ce que disait ce jour-là Alice Posicki.
Nous sommes en 2013. Christiane Taubira s'adresse aux députés. Après plusieurs mois de polémiques et d'interminables débats, la loi sur le mariage pour tous est adoptée.
Nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré.
Mais quelques mois après cette victoire, Christiane Taubira et sa réforme pénale visant à réduire la population carcérale se heurtent frontalement à Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Le futur Premier ministre réclame l'arbitrage du chef de l'État, la garde des Sceaux obligée de revoir sa copie. Le texte est allégé mais la suppression des peines automatiques est maintenue, remplacée par une nouvelle sanction, la contrainte pénale. Pendant ces 4 ans, Christiane Taubira a également fait face à la colère des professions juridiques. Notaires, huissiers, juges, personnels pénitentiaires ou avocats se sont tour à tour mis en grève. Christiane Taubira quitte aujourd'hui le gouvernement en laissant en suspens un projet ambitieux, la refonte de la justice pour mineurs. Dans les cartons depuis un an, le texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres.
Sur le plan strictement politique, cette démission éloigne davantage encore la gauche de François Hollande, Anissa El-Jabri.
Rétréci, droitisé, c'est le nouveau visage du gouvernement, sans doute jusqu'à la fin du quinquennat. Pour un chef de file des frondeurs, seuls des soldats perdus de la gauche, du PS ou de l'écologie accepteraient désormais d'être nommés ministres. C'est vrai, on va avoir bien du mal à convaincre, l'aveu est signé d'un conseiller à l'Élysée. Le départ de Christiane Taubira, c'est donc bien un coup d'arrêt brutal à ce qu'espérait François Hollande pour les prochaines semaines, l'élargissement de sa majorité, crucial en cette période de pré-présidentielle. Résultat, en quelques heures a ressurgi un débat que les proches du président espéraient clos, celui de la primaire à gauche, seul moyen de créer une dynamique électorale pour un chef de l'État en porte-à-faux avec une partie de son camp, disent ses promoteurs. La petite musique d'un président qui ne serait plus forcément candidat naturel à sa succession, voilà qui fragilise encore davantage un François Hollande, jour après jour donné perdant par les sondages en 2017.
Sept jours en France.
Qu'est-ce qu'il faut dire de plus à nos gouvernants ? C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Qu'ils descendent de leur tour Eiffel, qu'ils viennent faire 6 mois de taxi avec nous et qu'ils fassent notre travail.
Les taxis dans la rue, normal, me direz-vous, mais cette fois, ils manifestaient, vous l'avez entendu, contre une concurrence jugée déloyale, celle du service Uber, des véhicules de tourisme avec chauffeur, les fameux désormais VTC. Reportage d'Ariane Gaffuri.
Dans le collimateur des taxis en France et ailleurs, l'américain Uber, champion des VTC, Alim, chauffeur de taxi, ne décolère pas.
Les Uber, les Hitch, enfin tout ce qui n'a rien à faire sur le terrain, nous prennent une grande part du marché et on veut qu'une seule chose, c'est qu'ils dégagent, point, c'est tout.
Un sentiment partagé par une centaine de chauffeurs de taxi européens venus gonfler les rangs, comme Garvey du collectif de l'Union Suisse des Taxis.
Depuis l'arrivée d'Uber, on a une perte du chiffre d'affaires qui avoisine les 40%. C'est la fin des taxis, moi je dis dans quelques années. Nous sommes des indépendants. Si on fait faillite, on n'a pas le droit au chômage, du coup on va à l'assistance sociale. C'est le cas de pratiquement tous les taxis de Suisse.
Même écho chez les taxis espagnols, Concha Guardado, présidente de l'association Elite Taxi de Madrid.
Nous voulons que les Européens soient unis dans la lutte contre Uber. On veut que son patron, Travis Kalanick, sache qu'il n'arrivera pas à mettre les taxis sur la paille. Nous n'avons rien contre les VTC, mais Uber fait du transport clandestin de personnes. S'il respecte la loi, très bien, sinon qu'il disparaisse.
Tout aussi remonté, les taxis belges ont bloqué la circulation des périphériques tout à côté.
Suite d'une semaine d'actualité, nous retrouvons notre confrère Léonard Vincent. On va reparler des Érythréens. Dans ce livre, qui, je le répète, est passionnant, vous nous racontez aussi la genèse de la création d'une radio qui se trouve à Paris. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle à la fin de cette séquence française. Une radio qui s'appelle Radio RNA.
Oui, RNA, ça veut dire Notre Érythrée. C'est une radio que j'ai contribué à créer avec un journaliste érythréen qui s'appelle Binyam Simon, qui était le présentateur du journal du soir à la télévision publique, donc la télévision du gouvernement, et qui a fait défection un jour au Japon dans des conditions un peu rocambolesques que je raconte dans mon livre. On est devenus amis quand il est venu en France, je l'ai aidé à venir, à s'installer, et puis à force de discuter avec lui, je voyais que c'était un être exceptionnel dans son approche à la fois de son pays et puis du journalisme. Il était très attaché à l'indépendance politique et aussi à l'unité nationale et à la paix dans son pays. Et quand on est face à une dictature aussi cruelle, c'est une position très difficile à tenir. Et pourtant, il la tenait. Donc, on a créé, quand j'étais à Reporters sans frontières, ma dernière année, c'est la dernière chose que j'ai faite. J'ai créé avec lui, j'ai trouvé de l'argent pour créer cette radio avec le soutien de RFI, je dois le dire, qui lui a fourni des moyens techniques dans son petit studio qui est installé dans une cordonnerie du 13e arrondissement de Paris. Cette radio est devenue en quelques années, depuis 2009, qu'elle émet, l'une des radios les plus respectées en Érythrée, la source d'information principale des Érythréens, la plus fiable. Ouais. Elle est écoutée clandestinement par satellite, elle est écoutée aussi par les autorités qui sont très en colère et qui font tout pour essayer de la museler. Or, le petit coup de vis, comme on dit, qu'on avait choisi avec Binyam, c'est que on avait choisi de diffuser sur le même canal sur le même secteur, disons par le même média, que la télévision de propagande qui est si importante pour le régime. Ce qui fait que s'ils censuraient le satellite, ils censuraient aussi leurs propres outils de propagande. Ça ne les a pas empêchés de le faire, il a fallu passer sur un autre opérateur satellite. Aujourd'hui, sur Nilesat, les Érythréens peuvent entendre des informations. C'est extrêmement important, non seulement pour les gens qui sont restés dans le pays, mais aussi pour tous ces fugitifs qui sont sur la route et qui ont notamment un programme qui leur est dédié et qui est animé par Méron et Stéphanos, que certains peuvent peut-être connaître, qui est une femme remarquable qui aide les réfugiés partout, y compris ceux qui sont en plein naufrage en mer.
Et c'est bien que ça se passe à Paris en plus.
Paris, d'autant que le lien historique entre l'Érythrée et la France est extrêmement maigre, mais quand même il y a un certain nombre d'Érythréens qui sont francophones et francophiles. Je pense notamment, et je profite de votre antenne pour vous dire, que aujourd'hui à Paris vit l'épouse de Seyoum Tsehaye. Seyoum Tsehaye, c'est un grand photographe. Et cinéaste qui est emprisonné depuis 2001, qui a disparu, qui paraît-il est encore vivant quelque part dans une prison. Sa femme et ses deux petites filles vivent aujourd'hui à Paris. Elles sont à l'école, ce sont des petites françaises, et sa femme travaille dans une cantine scolaire. J'appelle depuis des mois Anne Hidalgo, la maire de Paris, à faire de Sioum Tsahaye un citoyen d'honneur de la ville de Paris. Ce serait un geste politique immense pour ce pays.
Une semaine d'actualité.
Alors, nous partons vraiment pour un continent que vous connaissez bien, Léonard Vincent, l'Afrique. Et revenons d'abord sur le procès de Laurent Gbagbo qui s'est ouvert donc jeudi à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. L'ancien président a préparé sa défense depuis plusieurs années. Il a eu le temps, il faut dire, sur place, Florence Maurice.
C'est peut-être sa dernière bataille et Laurent Gbagbo entend y mettre toutes ses forces. Il se prépare tel un boxeur, confiait un proche il y a quelques jours, un boxeur répétant à l'avance ses meilleurs coups avec son avocat. Son entourage le dit même impatient de pouvoir livrer sa part de vérité au juge. Son avocat, Maître Altit, décrit un homme certes éprouvé par des années de détention, mais un homme courageux. Et s'il est apparu fatigué lors de sa dernière audience d'avant-procès mi-janvier, de l'avis des experts de la Cour, il s'est remis du traumatisme causé par les conditions de son arrestation. En fait, Laurent Gbagbo serait bien moins préoccupé par l'issue du procès que par la trace que son nom laissera dans les livres d'histoire. Il ne veut pas que les Ivoiriens se souviennent de lui comme d'un meurtrier, confie l'un de ses proches. À la prison de Scheveningen, en tout cas, Laurent Gbagbo passe pour un homme affable et sage, consacrant beaucoup de temps à lire sur l'histoire ou sur les religions. Et malgré la distance et les années qui passent, l'ex-chef d'État peut s'enorgueillir de continuer à jouer un rôle de taille dans la politique ivoirienne. En témoigne le balai de futurs candidats qui se sont succédés pour lui rendre visite l'an passé à l'approche de la présidentielle, comme s'il cherchait à se faire adouber.
La Centrafrique a fait l'objet mercredi d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé expressément l'organisation d'élections alors que le premier tour des élections législatives a été annulé par la Cour constitutionnelle de transition. Pierre Pinto.
C'est cette résolution qui accompagnera les prochaines autorités issues des élections en Centrafrique. Il y est d'ailleurs fait référence dans un paragraphe en préambule. Le Conseil de sécurité engage les autorités actuelles à organiser des législatives et un second tour de présidentielle libre, équitable, transparent et sans exclusive afin de mettre fin à la transition d'ici au 31 mars, conformément au calendrier prévu. Fin de citation. Ensuite, les pays membres invitent les futures autorités à mettre en œuvre ou à poursuivre les grands chantiers déjà définis, comme la restauration de l'autorité de l'État, la lutte contre l'impunité ou le désarmement. Il est aussi fait mention des allégations d'abus sexuels imputés à des soldats de la paix et le Conseil se félicite des engagements pris par Ban Ki-moon dans ce domaine. Ensuite, la résolution 2262 prolonge pour un an les sanctions, en particulier les interdictions de voyager qui pèsent notamment sur François Bozizé ou Noureddine Adam, qu'on a vu réapparaître dans différents pays ces derniers mois. Le texte stipule toutefois que rien n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire de ses ressortissants. L'embargo sur les armes est également prolongé. Enfin, le Conseil engage la Centrafrique et les pays de la région à coopérer pour enquêter sur les groupes armés ou réseaux impliqués dans le trafic des ressources naturelles, notamment or, diamants et espèces sauvages.
Les prochaines élections présidentielles et législatives auront lieu le 14 février prochain. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Léonard Vincent, les Érythréens. On parlait tout à l'heure du peu de lien qu'il y avait entre l'Érythrée et la France. Il faut en revanche rappeler que l'Érythrée a été conquise, colonisée par l'Italie.
Mais elle a été créée par l'Italie dans sa forme actuelle. L'Érythrée est un vieux peuple et un vieux pays. C'est issu du pays de Pount. Et il faisait partie du royaume d'Aksum et du grand empire de la reine de Saba. Donc c'est une très ancienne civilisation.
Mythique.
Mais dans ses frontières actuelles, c'est le grignotage des commerçants et des Italiens alliés des sultans locaux et de quelques potentats locaux qui ont créé cette espèce de marchepied qui était destiné à préparer l'invasion de l'Abyssinie, donc de l'Éthiopie voisine. C'est une création coloniale donc qui a été urbanisée par les Italiens. La capitale Asmara est somptueuse, vous pouvez voir sur internet ou dans des livres de photographie.
Oui, c'est vrai que les photos sont
une capitale merveilleuse, art déco avec des vieux garages et des vieux cafés. Il y a un mode de vie italien aussi, une douceur de vivre à Asmara qui aujourd'hui est disons, terni, qui vit dans l'ombre de la dictature. Mais c'est une création italienne avec une Italie plutôt indifférente, voire même parfois plutôt cupide avec un régime avec lequel on peut faire des affaires dans l'impunité.
Alors Léonard, l'actualité de l'Érythrée ces jours-ci, c'est le risque de crise alimentaire à cause d'une sécheresse, même si le président Isaias Afwerki dit non, pas du tout.
Mais alors j'allais dire que c'est parce que le président Isaias Afwerki dit qu'il n'y a aucun problème que probablement il faut s'inquiéter. Des signes avant-coureurs me font penser que l'Érythrée pourrait, avec ses voisins, être touchée par une sécheresse exceptionnelle due au phénomène El Niño cette année. L'Éthiopie elle-même a appelé communauté internationale à la rescousse. 10 millions d'Éthiopiens sont aujourd'hui en besoin alimentaire. Djibouti et la Somalie ont également commencé à prendre langue avec la communauté internationale. Et or, l'Érythrée considère qu'elle a des réserves suffisantes pour pouvoir pallier aux besoins de sa population. Or, le coordinateur des opérations d'urgence de l'ONU était simultanément au discours du président, enfin l'interview du président où il dit qu'il n'a aucun problème, à Asmara, et il a rencontré les autorités. Il est probable que l'Érythrée va avoir besoin d'assistance. Ça va mettre à l'épreuve un régime qui considère et qui vit sur le mythe qu'il est autosuffisant et qu'il fait ce qu'il faut pour bien gérer son pays. L'explication officielle de la famine en Éthiopie, c'est que les Éthiopiens sont mauvais gestionnaires, alors que les Érythréens, eux, sont des bons gestionnaires et donc qu'ils peuvent permettre, que le génie érythréen permet d'éviter la famine. Je pense que c'est un mythe tragique.
Mais le contraste est saisissant. Vous nous avez rappelé tout à l'heure, Léonard, qu'il y a eu une guerre de tranchées à la fin des années
98-2000
entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Quel contraste aujourd'hui entre les deux pays ?
Et oui, Addis Abeba est aujourd'hui une ville hérissée de gratte-ciel et de tramway. Les points de croissance de l'Éthiopie sont évidemment à faire pâlir pas mal de pays de la région. Ce sont deux projets politiques strictement différents. Meles Zenawi, qui est un Tigréen, qui est décédé, mais qui a lancé ce grand projet de la démocratie de développement, comme il a dit, en Éthiopie, au prix aussi d'un certain autoritarisme, il faut le dire.
Il y a des pages d'histoire aussi assez sanglantes aussi dans ce pays, l'Éthiopie.
A lancé un grand projet disant qu'en s'appuyant sur le fort potentiel de développement de l'agriculture et de l'industrie, et de l'industrie aussi du génie éthiopien, on pouvait sortir l'Éthiopie du cycle des famines et des guerres. Il semble que sur ce point-là, au moins, il ait eu raison. L'Érythrée est dans une autre démarche, plus paranoïaque, beaucoup plus politique. Ils n'ont pas les mêmes moyens, évidemment. C'est un petit pays, essentiellement agricole, avec des déserts et des montagnes, des montagnes froides. Un fort potentiel agricole, mais et surtout un fort potentiel touristique. Or, aujourd'hui, faire du tourisme en Érythrée est légèrement indécent. Certains le font quand même. Mais enfin, ce n'est pas exploité. Ça ne permet pas à l'Érythrée d'être autosuffisante. C'est la diaspora. Et les mauvais coups du régime qui vont se rendre service ici à l'Arabie Saoudite ou là au Soudan, qui permettent au régime de subsister financièrement.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons, Léonard, notre voyage africain. Sans surprise aucune, Denis Sassou Nguesso a été choisi par son parti, le Parti Congolais du Travail, pour l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Karine Franck.
Pour le parti de Denis Sassou Nguesso, c'est un acte de loyauté et de responsabilité. Le chef de l'État incarne le rassemblement, la paix et l'unité nationale. Pour l'opposition, c'est la chronique d'une décision déjà annoncée, un faux événement. Le PCT n'a qu'un seul chef. Il faut dire que le suspense n'avait rien d'insoutenable. Depuis les premiers appels à une nouvelle candidature du président congolais, le scénario est écrit d'avance. Un dialogue boycotté par la majorité de l'opposition, puis en octobre un référendum pour faire sauter le verrou constitutionnel. Les contestations de l'opposition n'y changeront rien. Denis Sassou Nguesso a désormais la possibilité de faire 3 nouveaux mandats, lui qui cumule déjà plus de 30 années à la tête du pays. Ce qui était moins attendu, en revanche, c'est la décision annoncée fin décembre sur l'avancement au 20 mars du premier tour de la présidentielle, qui devait initialement avoir lieu en juillet. Une manière peut-être de déstabiliser davantage l'opposition, une manière aussi de ne pas laisser les polémiques s'installer dans le pays. Quant à Denis Sassou Nguesso lui-même, il reste toujours silencieux sur ses intentions.
Alors revenons pour conclure ce voyage sur la polémique au Mali, polémique autour de la suppression du droit de vote du pays à l'Assemblée générale de l'ONU, car Bamako n'a pas payé sa quote-part au budget de fonctionnement de l'organisation dans la capitale malienne, David Bachet.
Il fallait qu'une tête tombe. Sékou Kassé était ambassadeur du Mali aux Nations Unies à New York depuis juillet 2013. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, vient de mettre fin à ses fonctions. Un acte symbolique destiné à montrer que les autorités ont pris la mesure du manquement qui suscite aujourd'hui une vaste polémique dans le pays. Polémique que même les excuses publiques du Premier ministre Modibo Keïta sur les ondes de la radio-télévision d'État au RTM n'ont pas suffi à calmer. Le chef du gouvernement a pointé l'attitude peu soucieuse de certains cadres et expliqué que le ministère des Affaires étrangères aurait transmis un mauvais numéro de compte au Trésor, où personne ne se serait alarmé du retour de la somme qui devait donc être transférée aux Nations Unies. Version aussitôt démentie par la section syndicale du Trésor, qui assure que l'alerte a bien été donnée dans une puis deux lettres officielles et dont le secrétaire général a clamé dans la presse ne pas admettre d'être jeté en pâture.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Nous lisons vos paroles, vos mots avec toujours autant de passion. Un bonjour aujourd'hui à Liane qui nous écoute via notre site à Tashkent et qui estime, pensant au statut voilé à Rome lors du voyage du président iranien, que les Européens doivent au contraire montrer qu'ils sont fiers de leur culture. Bonjour aussi à Thierno, à la baie, à Jean-Jacques, à Cocody et à Acitane également en Côte d'Ivoire. Bonjour à Sophie Aumont, à Dungu Sanjamena et à Ganiesal, à Thiès, au Sénégal. Suite d'une semaine d'actualité, il nous reste quelques minutes, Léonard, pour parler des Érythréens. Il faut rappeler, puisque nous avons parlé de l'ONU et des difficultés du Mali à payer sa quote-part, que le pays est indépendant depuis 1993.
C'est oui, ça juridiquement, et 91 et de facto.
91 et membre des Nations Unies, d'ailleurs.
Absolument.
Hein, État membre des Nations Unies. Et je voudrais qu'on termine sur cette question des relations entre l'Europe et l'Érythrée. Ça couvre aussi cette question des réfugiés, parce que vous ne comprenez pas la réaction, justement, des Européens vis-à-vis de l'Érythrée.
Oui, c'est très contradictoire. Ils essayent un jour une approche progressive en essayant de reprendre langue avec eux, de signer des contrats de coopération pour aider l'Érythrée à se développer, pensant que l'économie érythréenne redécollant, les migrants cesseront de fuir la tyrannie, ce qui est une idiotie, il me semble. Et le lendemain, ils sont plutôt brutaux et secs avec un régime qui viole allègrement les droits de l'homme. Et surtout Mais je pense qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas comprise, ces pays européens, c'est que l'avenir de l'Érythrée aujourd'hui se joue dans les camps de réfugiés d'Afrique et dans les bidonvilles d'Europe. S'ils ne s'occupent pas de donner aux jeunes Érythréens qui ont fui leur pays et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir y retourner, s'ils ne donnent pas à ces gens une chambre, un chauffage et des livres, ils iront, ces jeunes gens, chercher du secours ailleurs. Et j'ai bien peur que, à force de les brutaliser et de les mépriser, ces jeunes Érythréens aillent chercher dans des groupes armés, et suivez mon regard, le secours et l'honneur qu'ils ne trouvent pas auprès des pays européens. Ils ne considèrent pas que l'Europe a une dette envers eux, ils considèrent simplement que on pourrait leur proposer un moment de repos du savoir, de la connaissance et de la culture pour pouvoir demain reconstruire leur pays le jour où le régime tombera. C'est très important pour l'avenir de l'Érythrée que les pays européens comprennent que s'ils sont attachés à la paix en Afrique d'une part, et s'ils sont attachés à la lutte contre le terrorisme, il est important de prendre soin des réfugiés qui sont sur notre territoire parce que d'autres le feront à notre place.
CQFD, Léonard, une question personnelle pour conclure cette émission. Vous écrivez quelque part dans ce livre, qui est aussi un livre personnel, on a commencé l'émission avec votre démarche. Vous savez maintenant pourquoi vous intéressez à l'Érythrée ou vous essayez toujours de répondre à cette question?
Ben aujourd'hui, c'est trop tard pour me poser la question. Je suis embarqué dans cette histoire. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'affection pour des gens. Donc maintenant, il n'est plus vraiment le temps de me poser la question. Mais je continue.
Dans le livre, vous le faites. Hein, vous dire, oui. Je me demande pourquoi je me suis intéressé à ce pays.
C'est ça, oui. Alors, il y a une part de terre inconnue que j'ai voulu explorer. Il y a aussi la beauté de ce pays, la beauté des paysages, des gens, l'étrangeté.
Je veux dire que la couverture de votre livre est magnifique. Hein,
oui, c'est le visage d'un Érythréen avec ce regard perçant et ce visage étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos latitudes. Et même en Afrique, ils sont perçus comme un peu ces extraterrestres venus de là-bas, du pays fermé.
Vous allez continuer à vous y intéresser?
Certainement. De toute façon, à chaque fois que je décide d'arrêter, ils me rattrapent.
Merci Léonard Vincent. Votre livre qui vient de paraître en poche, donc dans la collection Rivage, s'intitule sobrement Les Érythréens. Merci.
Merci Pierre-Edouard.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous parlerons de la République. Au fait, qu'est-ce que la République? Voilà, c'est une question simple et compliquée à la fois. Vous verrez, il est difficile d'en trouver une définition précise. Nous serons en compagnie de Frédéric Rouvillois qui vient d'écrire un ouvrage sur le sujet. Il est spécialiste de droit et historien. Demain donc dimanche, 16h10 temps universel, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.